Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 2015 au livre de poche Marion, 13 ans pour toujours est un récit témoignage de Nora Fraisse, recueilli avec Jacqueline Rémy. L'auteur y raconte la mort de sa fille Marion, adolescente de 13 ans qui s'est suicidée en 2013 après avoir subi un harcèlement répété au collège et par l'intermédiaire des outils numériques. Le livre ne relève donc pas de la fiction ni d'une enquête judiciaire exhaustive. Il fait entendre la parole d'une mère confrontée à la perte, à l'incompréhension et à la recherche des circonstances qui ont isolé son enfant. Son objectif est double: préserver la mémoire de Marion et alerter sur la gravité du harcèlement scolaire. À travers ce cas singulier, Nora Fraisse interroge les responsabilités des élèves, des témoins, des familles et des institutions. Le texte expose aussi la continuité entre violences vécues dans l'établissement et cyberharcèlement, qui prolonge l'emprise jusque dans la sphère privée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un témoignage maternel qui refuse de réduire Marion à son dernier geste. Le choix du témoignage donne au livre une force particulière. Nora Fraisse ne traite pas le harcèlement comme un simple sujet de société, mais comme une réalité qui a traversé l'histoire de sa famille. Elle s'adresse à sa fille et restitue une présence affective, ce qui évite que Marion soit seulement perçue comme un symbole ou comme un chiffre dans les statistiques sur les violences scolaires. Cette perspective explique l'intensité du texte, fait de chagrin, de colère et de questions sans réponse immédiate. La démarche n'est pas celle d'une observatrice détachée. Elle assume une parole située, celle d'une mère qui tente de comprendre ce qu'elle n'a pas vu, ce que sa fille n'a pas pu ou voulu dire et ce que d'autres savaient éventuellement. Cette subjectivité est constitutive de l'ouvrage, elle rend perceptible la violence durable du deuil et de l'incertitude. Le livre rappelle ainsi qu'un suicide d'adolescent ne met pas fin aux conséquences du harcèlement pour les proches. Il ouvre une période de recherche, de confrontation aux récits divergents et de lutte pour faire reconnaître la souffrance subie. L'hommage personnel devient alors une mise en garde publique sans effacer l'individualité de Marion. Deuxièmement, le harcèlement décrit comme une violence répétée et collective. L'ouvrage met en lumière un mécanisme essentiel du harcèlement scolaire. Ce ne sont pas uniquement des incidents isolés ou des disputes entre élèves, mais une accumulation de moqueries, d'insultes, de menaces et de mises à l'écart. Leur répétition transforme progressivement le quotidien de la victime. La violence gagne en efficacité parce qu'elle s'inscrit dans un rapport de groupe. Certains agressent, d'autres relaient, rient, observent ou se taisent. Cette dynamique peut donner à la personne ciblée le sentiment qu'aucun espace social ne lui est favorable. Nora Fraisse conteste donc la banalisation qui consiste à présenter ces faits comme de simples chamailleries ou comme une étape inévitable de l'adolescence. Le livre montre que les mots, lorsqu'ils sont répétés et soutenus par un effet de meute, peuvent devenir une forme de torture psychologique. Il invite également à ne pas renvoyer automatiquement la responsabilité sur la victime, en cherchant ce qu'elle aurait fait pour provoquer les attaques. Comprendre le harcèlement suppose au contraire d'examiner les actes, leur fréquence, leur déséquilibre de pouvoir et les effets produits. Cette grille de lecture est utile aux adultes comme aux adolescents, car elle aide à distinguer un conflit ponctuel d'une situation d'emprise nécessitant une intervention rapide. Troisièmement, le téléphone et les réseaux sociaux abolissent le refuge du domicile. Le téléphone portable suspendu près de Marion est présenté comme un symbole central du récit. Il condense l'idée que les violences ne s'arrêtaient pas à passer par la sortie du collège. Les messages et les réseaux sociaux permettent au harcèlement de se prolonger dans la chambre. Le soir, durant les week-ends et dans les moments où l'adolescent devrait pouvoir se sentir protégé. Cette continuité modifie profondément l'expérience de la victime. Elle ne peut plus compter sur la séparation entre vie scolaire et vie familiale pour récupérer ou prendre de la distance. Le cyberharcèlement facilite aussi la circulation rapide de propos humiliants, de menaces ou de rumeurs, tandis que le groupe peut se constituer et agir hors du regard direct des adultes. Le livre ne présente pas la technologie comme la cause unique de la violence. Il montre plutôt qu'elle peut en augmenter la portée, la permanence et l'isolement. Cette distinction est importante pour la prévention. Répondre au problème ne consiste pas seulement à retirer un appareil, mais à apprendre à repérer les signaux d'alerte, à conserver les éléments utiles, à dialoguer sans culpabiliser l'adolescent et à mobiliser l'établissement lorsque des faits liés à la scolarité se poursuivent en ligne. Le numérique impose une responsabilité éducative partagée. Quatrièmement, la mise en cause de l'écoute et de la réaction des institutions scolaires. Une part majeure du livre porte sur les démarches de Nora Fraisse après la mort de sa fille et sur son sentiment de se heurter au déni, à l'insuffisance des réponses ou à une logique de protection institutionnelle. Il convient de lire ces passages comme le récit de son expérience et de sa perception, non comme une expertise générale sur tous les établissements. Leur portée reste néanmoins importante, le texte questionne la façon dont une école recueille les alertes, croise les informations, protège un élève en difficulté et rend compte de ses décisions aux familles. Le harcèlement est difficile à traiter lorsqu'il demeure fragmenté entre des faits minimisés, des conversations privées et des comportements observés de manière partielle. Le témoignage insiste donc sur la nécessité d'une vigilance active plutôt que d'une attente de preuves absolues ou d'une crise visible. Il demande aussi que la parole des jeunes soit prise au sérieux, y compris quand elle est indirecte, incomplète ou hésitante. L'enjeu n'est pas de désigner mécaniquement des responsables pour chaque situation, mais d'empêcher que l'incertitude serve de prétexte à l'inaction. En décrivant l'épreuve des démarches administratives, Nora Fraisse élargit le débat après un drame, l'accompagnement. L'écoute et la transparence envers les proches font aussi partie de la responsabilité collective. En dernier lieu, un livre d'alerte destiné aux victimes, aux témoins. Aux parents et aux éducateurs, Marion, 13 ans pour toujours, ne propose pas un protocole complet de prévention ni un manuel juridique. Sa fonction est d'abord de rendre impossible l'indifférence face aux conséquences potentielles du harcèlement. Cette fonction d'alerte explique pourquoi le livre peut être lu par plusieurs publics. Pour les parents, il souligne que le silence, le repli, une peur inhabituelle de l'école ou une modification des usages numériques méritent attention, sans qu'il faille conclure trop vite ou interroger l'enfant comme un suspect. Pour les professionnels de l'éducation, il rappelle l'importance d'une écoute cohérente et d'une réponse organisée. Pour les adolescents, il rend visible le rôle des témoins, ne pas porter soi, même les insultes ne signifient pas être extérieur à la situation lorsque le silence. Les partages ou les encouragements renforcent le groupe. Le livre peut ainsi soutenir une discussion encadrée sur les mots employés, les rumeurs, les mécanismes de réputation et les moyens de demander de l'aide. Sa lecture exige toutefois une médiation adaptée, en particulier avec des jeunes, en raison du suicide évoqué et de la charge émotionnelle du récit. L'objectif pertinent n'est pas de susciter la peur, mais de développer une culture de l'intervention, de la solidarité et du signalement précoce. En conclusion, ce livre s'adresse en priorité aux parents, aux équipes éducatives, aux professionnels qui accompagnent des adolescents et aux lecteurs assez mûrs pour aborder un récit de deuil et de suicide. Il peut également nourrir des échanges encadrés avec des collégiens ou des lycéens, à condition de prévoir un espace de parole et des ressources d'aide. Son bénéfice principal n'est pas de fournir une méthode clé en main, il rend concrète la gravité d'un phénomène parfois réduit à des incivilités ordinaires. En suivant le point de vue d'une mère, le lecteur mesure l'impact du harcèlement sur la victime, mais aussi sur une famille confrontée à l'absence, aux interrogations et aux démarches pour obtenir une reconnaissance des faits. Par rapport au guide de prévention, Marion, 13 ans pour toujours se distingue par son ancrage dans une histoire réelle et par la place centrale accordée à la voix intime de Nora Fraisse. Par rapport à un roman, il ne cherche pas à construire une intrigue ou à distribuer des leçons simples. Il expose une expérience douloureuse, nécessairement subjective, qui appelle à examiner les défaillances possibles de l'entourage et des institutions. Sa lecture est éprouvante, mais elle offre un repère éthique clair, prendre les alertes au sérieux. Ne pas banaliser la violence collective et reconnaître que les témoins comme les adultes peuvent contribuer à interrompre l'isolement. C'est un texte de mémoire devenu outil de sensibilisation. Si vous souhaitez soutenir Nora Fraisse, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.